On est donc dans le chapitre 34, je pense que c'est notre sixième cours, où basé Ismar Libo Veyagel, en bas de la page 103. On a expliqué longuement, très longuement la semaine dernière.
La page de 100
103.
103.
On a expliqué très longuement la semaine dernière, on a fait un cours que sur ça, sur l'importance de l'étude, et pas simplement de l'étude fixe. Longuement.
Qu'il faut faire régulièrement.
Régulière. Et qu'on est allé très loin. On a dit qu'en ayant une étude régulière, ça veut dire un cours fixe à un horaire spécifique, un jour spécifique, etc.
Comme le nôtre.
Comme le nôtre, exactement. Depuis plus de 10 ans maintenant, Baruch HaShem. Ouais, on a près de 10 ans là. Ouais, 10 ans. Et donc, en ayant un cours fixe, on transforme la Torah comme un RSEC. C'est quoi RSEC? RSEC, c'est une affaire. Ça veut dire que j'en fais mon affaire personnelle. C'est pas un devoir, c'est pas une charge, c'est un plaisir. Je me donne entièrement pour la Torah. Et là, automatiquement, quand on fait des choses comme ça, on n'a pas besoin de grands chiffres. Même si c'est Perek Echad Shacharit, Perek Echad Arvit, même si c'est un chapitre le matin, un chapitre le soir, ça veut dire que c'est pas des grands chiffres, c'est pas des grandes masses. Du fait que c'est quelque chose de fixe, eh ben c'est une inspiration, c'est la source d'inspiration. Kaviachol, comme les patriarches. Pourquoi? Parce que les patriarches, qu'est-ce qu'on a retenu? Quelle était leur qualité principale? Leur qualité principale est qu'ils étaient Merkava, un char. C'est quoi le char? Le char, c'est celui qui ne réfléchit pas, qui a une soumission absolue à Kadosh Baruch Hu. Alors, nous aussi. Lorsque arrive l'heure d'un cours de Torah, et qu'on est fatigué, c'est le lundi, c'est la reprise, etc., et qu'on fait l'effort, peu importe ce qui se passe, peu importe les occupations qu'on pourrait avoir et que tout le monde a, je fais l'effort de venir quand même. Donc je fais l'effort de me faire violence, entre guillemets, de me soumettre et de venir, même si j'ai pas forcément envie, enfin en tout cas je crois que j'ai pas envie. Et ben à ce moment-là, je suis comme les patriarches qui sont Merkava. Bon, bien sûr, c'est pas au même niveau, les patriarches font ça toute la journée, toute leur vie. Mais quelque part, oui, en se forçant à avoir un cours de Torah fixe, c'est aussi fort que les patriarches, c'est plus fort qu'une grande étude de Torah. Alors sur ça, je voudrais illustrer ça avec une idée que donne Maïmonide. Après, on va rentrer dans les mots. Maïmonide illustre ça avec une idée. Si je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui est plus important? Une personne qui fait un don de 1000 euros, en une fois, il sort son chéquier, il fait un don de 1000 euros, ou une personne qui fait un don 100 fois différente de 1 euro? Alors évidemment, on a envie de dire, c'est celui qui a donné 1000 euros, parce que bon, un il a donné 1000, l'autre il a donné 100. Qu'est-ce que c'est que Maïmonide?
100, 1 euro.
Maïmonide dit 100 fois 1 euro, c'est plus difficile qu'une fois 1000 euros. Parce que c'est comme ça qu'il commente la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 3, si mes souvenirs sont bons, qui dit que Vehakol lefi rov a maasé. Qu'on suit le nombre de fois qu'une action a été faite. Je ne parle pas de quantité, je parle du nombre de fois qu'une action est faite. Alors, les commentaires sur Maïmonide disent comme ça.
Qui c'est qui suit ça?
Alors, Maïmonide, dans son commentaire sur le Mishnah.
Qui suit le nombre de fois que la...
Non, d'accord, bon, c'est une image.
Il a fait un automatique de 1 euro sur 100 mois. Et il a fait qu'un seul effort.
Oui, d'accord, là, il a fait un seul effort.
Ah, d'accord.
Je parle en marge d'effort. Alors, justement, Maïmonide explique comme ça. Maïmonide, il dit que quand j'ai fait un don de 1000 euros en une fois, le combat a duré une seule fois. Alors c'était un combat qui n'était pas simple, avec mon Yitzhara, mais c'était un combat que j'ai fait une fois. Pareil, il a donné un très bon exemple. Yves, quand on fait un prélèvement ou un virement, tu as fait le combat une fois. Tu as fait le combat une seule fois. C'est pour ça que les gens ne supportent pas les virements.
Donc il faut qu'on arrête les prélèvements.
Parce qu'ils savent qu'une fois que tu as fait un prélèvement, tu ne touches pas. On a, vous savez, mon père m'a dit qu'on a des pas beaucoup, mais on a quelques prélèvements de gens qui ont fait déjà à l'époque des francs.
Ouais.
Et pas grand chose, enfin 50 francs. D'accord.
Des francs, je sais pas, mais je l'ai fait.
Ah non, à l'époque des francs, il m'a dit j'ai un prélèvement, j'ai quelques prélèvements, bah c'est pas grand chose. C'est 7,50€, 10€. Et c'est tout, le bonhomme il arrête pas après, tu veux qu'il arrête. Hein.
Alors ça veut dire qu'il y a moins de mérite puisqu'il est en prélèvement et donc
non,
finalement
non,
il s'est.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai que Maïmonide explique que si j'ai le choix entre les deux, d'accord, il te dit que chaque fois que tu mets la main à la poche, c'est un mini combat, c'est un micro combat avec mon Yitzhara. Même pour mettre 1 euro. c'est un micro-combat. Donc 100 micro-combats valent beaucoup plus qu'un grand combat.
Mais le virement,
alors, pourquoi je vous parle de
c'est
ça
pareil, c'est pareil, le virement.
Tu vois
le virement.
Tu le vois pas, le virement.
Voilà, c'est ça.
Donc je fais pas d'effort.
On va dire tu le vois une fois par mois, mais bon, tu le vois pas, tu vois pas.
Allez-y.
Donc c'est pas bien de faire le virement.
Bien sûr, c'est bien de faire le virement. Parce que concrètement, ça continue.
C'est pas comme celui qui donne qui fait plus d'efforts.
Moi, j'ai les virements comme ça. Tu les sens pas. Tu vas jamais les arrêter. Et même quand des fois tu passes par des périodes où c'est un peu plus serré, tu vas pas arrêter. Tu dis bon, ça va, Dieu va aider. Dans les faits, tu arrêtes pas. Ah oui. Alors que si c'était un don ponctuel, tu veux dire bon, je l'aurai dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Bon. C'est pour ça que je pense que le virement, mais pas des grosses sommes. Bon. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire avec le Rambam? Avec, est-ce que c'est mieux un virement, est-ce que c'est mieux un don de 1000 euros ou 100 dons de 1 euro? En fait, c'est très simple. C'est pour illustrer ce qu'on explique ici. Imaginez qu'une personne va dire, je vais faire une journée yeshiva. Il va aller toute la journée à la yeshiva. D'accord? C'est très difficile. Il sait qu'il va être largué, mais il fait un effort. Et d'un autre côté, t'as une personne qui essaye de venir au cours chaque semaine, qui reste une heure. Eh bien, on te dit, celui qui vient en cours chaque semaine, c'est plus fort que celui qui est venu toute une journée à la yeshiva.
Mais c'est plus fort pour qui?
Pourquoi? Pour lui. Pourquoi? Parce que le combat qu'il a eu avec son etzara pour aller une journée de yeshiva, même une semaine, même un mois de yeshiva, c'est un combat. Alors que le combat du cours du lundi soir, c'est un combat de chaque semaine. Qui s'arrête jamais. Et c'est pour ça que ça, c'est une sorte de soumission, une sorte de merkava, de char, qui est, entre guillemets, au niveau des patriarches.
Et ça, ça nous fait marquer des points ou pas du tout?
Évidemment. Chaque fois, c'est un nouveau combat. Bien sûr, c'est des points.
Chaque fois, on marque un point.
Ah bah, Kadosh Baruch Hu, il voit ça, il voit que c'est difficile. Kadosh Baruch Hu, il te recommence par rapport à l'effort. D'accord. Ou basé, avec cela. Ismach Libo. Donc, je suis maintenant à la page 103, deux chapitres avant la fin. Ou basé avec ce qu'on a expliqué. Ismach Libo, son cœur va se réjouir. Veyiten Oda'a Lachem Al-Khelko. Et on va remercier à Kadosh Baruch Hu. Al-Khelko, sur sa part. Et il sera, Bessimcha uvetuv levav, on sera joyeux et avec le cœur bon, d'ailleurs le cœur bien, Al-Shezachal yot ushpisran nikvura, pour avoir mérité d'être celui qui a accueilli la puissance d'Akadosh Baruch. J'explique ce qu'il veut dire ici. Tous les matins, avant le Hodou, il y a des textes que ceux qui ont le temps lisent et qu'on devrait tous lire tous les matins, normalement. Dans lesquels, un de ces textes, c'est un texte magnifique, qui dit, Ashrei nu matof chelkenu, uma naim goralenu, uma yafa yoroshatenu. Il y a plusieurs chansons qui ont été composées sur cette belle phrase. Kora, Ashrei nu matof, Ashrei nu matof chelkenu. Enfin, il y a plusieurs airs chassidiques et autres, d'ailleurs, qui ont été composées sur ces mots.
Et c'est quoi, Ashrei?
Alors justement, qu'est-ce que disent ces mots? Ces mots disent, Ashrei nu matof chelkenu. Ashrei nu, nous sommes heureux. Matof chelkenu, combien notre part est belle. Ou manaim goralenu, combien notre sort est agréable. Ou mayafa yerushatenu, combien notre héritage est beau. C'est-à-dire qu'on commence notre journée en remerciant Akadosh Baruch Hu, en remerciant Akadosh Baruch Hu sur le sort qu'on a eu, le sort qu'on a eu d'être juif. On sait que, quand on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on a déjà remercié Akadosh Baruch Hu qui nous a créé, il y a un grand monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs planètes déjà. Et nous, il nous a créé dans la planète Terre, qui est la raison principale de la création. Et dans la planète Terre, il y a plusieurs créatures.
Il y a une autre planète.
D'accord. Bien sûr qu'il y a des autres planètes.
Non, il y a une autre planète où il y a une vie.
Mais bien sûr. C'est pas...
Ouais, mais il n'y a pas des humains.
D'autres formes de vie.
D'autres formes de vie, non, mais tu parles de formes de vie. Nous, on parle de formes de vie.
C'est pas incompatible, d'après la Torah, qu'il y ait des extraterrestres.
D'accord.
Mais seulement, le monde n'a pas été créé pour eux. Ce ne sont pas la finalité du monde. C'est pas incompatible du tout.
D'accord. Alors, d'où ils viennent, alors?
Vous avez entendu le contraire, c'est pour ça.
Pas du tout. Il n'y a aucune incompatibilité avec...
Donc si demain matin, il y a des petits hommes verts qui débarquent à Paris...
Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas.
Il y aura des bijoux plein les doigts. Donc, c'est une création de Dieu, alors c'est,
quoi?
C'est une création de
Dieu. Oui, je ne dis pas qu'il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas. La Torah ne se prononce pas, ni d'un côté, ni d'un autre. D'un part.
C'est
Télème. C'est
Télème.
C'est Télème? Je n'ai pas compris.
Les hommes
verts. Ah, mais ça vert, c'est dans l'imagination de Spielberg, ça vert. Et ça peut être bleu, ça peut être rose, ça peut être violet. Dans la tête des gens, dès qu'ils imaginent extraterrestre, ça doit être vert. Bon. En tout cas, on doit s'imaginer comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs planètes. Toutes ces planètes-là ont un rôle. Mais le rôle principal, l'acteur principal, c'est la planète Terre. Dans la planète Terre, il y a plusieurs créatures. Il y a des montagnes, il y a des animaux, il y a des minéraux, il y a le végétal, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'humain. L'humain qui est le centre de la création. Donc déjà, on n'est pas seulement dans l'univers, on est dans la planète Terre. Et dans la planète Terre, on est des êtres humains. Dans les êtres humains, n'y a pas que des juifs, il y a des non-juifs. D'accord ? Bon, il y a surtout des non-juifs. Et nous, on a la chance de faire partie de la minorité d'excellence qui est le Ham Israël. Dans le Ham Israël, tu as des gens qui ont la chance de pratiquer, tu as des gens qui n'ont pas encore la chance de pratiquer. Et nous, on a la chance de faire partie de ceux qui pratiquent. Dans ceux qui pratiquent, tu as ceux qui pratiquent légèrement, qui font que le Shabbat et encore, et tu en as ceux qui ont la sensibilité de venir à un cours de Tania lundi soir. Ça veut dire que quand tu prends le zoom, on est une extrême minorité. Minorité de chez minorité. Et quand tu réfléchis à ça, tu dis, mais attends, tu t'imagines comment le monde est grand, et comment je suis tout petit, et j'ai la chance de réfléchir à des choses que personne ne réfléchit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 99,999% des gens qui sont chez eux à la maison en train de regarder... c'est encore Poivre d'Arvor ou ça a changé ? Parti. Ils sont en train de regarder les informations. Et moi, je suis là en train de regarder les informations. C'est extraordinaire. Mais si, on est une minorité. Hein. Mais Ashrei, nous, combien nous sommes heureux. On a un sentiment d'appartenir à quelque chose. J'ai pas envie de dire d'élitisme, parce que c'est pas forcément un mot qui est bien compris. Mais on a un sentiment qu'on appartient à quelque chose d'extraordinaire. Alors, pas seulement ça. Je vais aller même plus loin que ça. Je vais aller même encore plus loin que ça. Est-ce que vous savez comment commencent les 10 commandements ?
Anochi Hashem.
Anochi. Anochi. Anochi, en hébreu, ça veut dire quoi ?
Je suis.
En hébreu, ça veut rien dire.
Ah bon ?
En hébreu, comme on dit je, on dit ani. Qu'est-ce que veut dire le mot Anochi ? Alors déjà, d'emblée, le mot Anochi est un mot égyptien. Ouais, un mot égyptien. Midrash dit clairement. Que veut dire le mot Anochi ? La Gemara a dit, Anochi, c'est les initiales de Ana, Nafshi, Ketvit, Yehavit. Anna, c'est Dieu qui parle, qui dit moi. Nafshi, mon âme, mon essence. Ketvit, je l'ai écrite. Donc Dieu a écrit son essence, c'est extraordinaire. Yehavit, je l'ai donnée. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous a donné la Torah, c'est pas seulement qu'il nous a donné des instructions. C'est pas seulement qu'il nous a donné un code de loi. C'est beaucoup plus que ça. Il nous a donné son essence. Il a intégré son essence dans la Torah. Ça veut dire que autant on sait que le Beth Amikdash, l'Arche Sainte, le Saint des Saints, c'est un endroit qui accueille Akadosh Baruch Hu, dans lequel l'essence de Dieu se trouve, comme on le voit dans les parachutes actuellement, on le voit encore, on l'a vu encore la semaine dernière dans la paracha Haremot, autant on te dit que lorsque tu étudies la Torah, on est en train d'étudier l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui a été compressée et comprimée dans des lettres, dans du papier. Extraordinaire. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais tu t'imagines la chance que j'ai d'avoir un outil en main extraordinaire. Dieu, il a eu l'extrême gentillesse, pas seulement de nous donner des instructions, il a eu l'extrême gentillesse de mettre son essence dans des lettres, dans des mots, dans des idées. Et ces mots, il me les a donnés. Il me les a donnés et il m'a demandé de les étudier à moi. J'ai dit, mais tu t'imagines la chance que j'ai ? Mais juste pour ça, déjà, je dois être Bessimra. Ça veut dire que quand on lit ce Pérec, ça nous change complètement la manière de voir le judaïsme. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le judaïsme, c'est un calvaire. D'accord ? Il y a des règles, c'est une galère. Il y a 613 lois, c'est une prison. Qui peut être dorée, mais c'est une prison. Non, on ne te dit pas du tout. C'est une chance qu'on a. C'est une chance qu'on a la chance d'avoir d'étudier la Torah dans laquelle Dieu s'est réduit Kaviachol, il a mis toute son essence et il a mis dans cette Torah. Et pas seulement ça. Et tu dis, oui, tu vas dire, oui, mais attends, c'est bien beau, mais moi, combien de temps j'étudie ? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? On n'a pas l'air dans la Torah. Il dit, c'est pas grave. Il dit, regarde. Même si tu fais pas maïm becholion, même si tu vas étudier deux fois par jour. Kefi a et ve apnaï shelo, selon le temps que tu as. Je suis dans les mots, là, que je pense qu'on a tourné la page. Non, en bas de la page, pardon. Kemisat yado, asher ikhri vachemlo. Selon le temps qu'Akadosh Baruch t'a donné. C'est pas grave. Akadosh Baruch t'a donné. Et on va prendre le nom du Beth Amikdash. Vous savez où Beth Amikdash? Il y a des gens qui étaient tout le temps au Beth Amikdash. 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais ils étaient tout le temps au Beth Amikdash. Tout le temps, ils étaient au Beth Amikdash. Mais la majorité des gens, la majorité du peuple, ils étaient combien de fois par an au Beth Amikdash ? Combien d'heures par an au Beth Amikdash ? Déjà, trois fois par an, c'est très rare. Il faut savoir que la majorité du Ham Israël s'est forcé de venir au moins une fête par an. Il faut le savoir. Et même cette fête, il n'est pas toute la fête. Et qu'est-ce que tu crois ? Parce que les femmes venaient pas, ils avaient les enfants. Il n'y a que l'année du Hakel, comme cette année, que là, tout le monde venait. Si c'était pas l'année du Hakel, il venait pas. Imaginez, il vient, il a laissé sa femme. Donc il va partir comme ça, il va partir un mois, il revient. Il peut pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait, il passait les premières fêtes, les deuxièmes fêtes, il revenait. Donc, Maintenant, il vient à Jérusalem. Il vient à Jérusalem, il va aller, la famille, etc. Combien de temps, d'après vous, il va passer au Beth Amikdash? Pas grand-chose. Et dans le Beth Amikdash même, combien de temps il va être là? Combien de temps ça va tourner autour du Saint des Saints? Pas grand-chose. Il va être là, il va voir, il va regarder, il va rentrer. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas la quantité qui compte. S'il a eu un moment fort dans lequel il a vécu le Saint des Saints, c'est déjà bon. C'est bien. Eh bien, imaginez-vous que c'est la même chose, nous aussi. Et quelqu'un va dire, oui, mais attends, tu comprends, moi, combien j'étudie la Torah? Ah, les rabbins utilisent la Torah tout le temps, je veux bien. Qu'est-ce que j'ai étudié? Un cours par semaine, qu'est-ce que ça vaut? C'est noyé dans la masse de la semaine. Tu dis, non, c'est pas noyé. Bien sûr que si tu peux faire plus, fais plus. Il n'y a pas de question dessus. Mais il est important de comprendre que chaque mot de Torah que j'ai étudié, c'est comme si que j'ai étudié l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ma mâche, c'est comme si que j'étudiais l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, et là, on va s'arrêter un petit peu dessus. Cependant, il faut préciser que cette qualité, que lorsqu'on étudie la Torah, c'est l'essence de Dieu qu'on étudie, on peut l'oublier avec le temps. Alors, dans la Chassidut Rabat, on dit ça comme ça. On dit que on peut parfois étudier la Torah en oubliant le Noten HaTorah, Dieu qui a donné la Torah. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que normalement, chaque page de Gemara que je devrais étudier devrait m'aider à me sentir encore plus bâtel, encore plus annulé à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est le cas? Pas forcément. Parce qu'il peut arriver qu'avec le temps, comme on laisse la place à ma compréhension, donc j'oublie que j'utilise un support extraordinaire. Et finalement, je me concentre sur ma compréhension, ma manière de voir les choses.
C'est exactement ça.
Mais c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail de remise en question à faire tous les quelques mois, toutes les quelques semaines, toutes les quelques années, etc. Pour se remettre en question et pour se poser la question, est-ce qu'on est bien conscient de l'outil qu'on utilise? C'est un outil divin. C'est pas un outil humain, c'est un outil divin. Je vais illustrer ça avec une histoire. On raconte que Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui était un des grands disciples du Magid de Meziritch. Magid de Meziritch qui était le remplaçant du Baal Shem Tov. Donc on parle d'une très très grande pointure. On raconte que le Rabbi Menachem Mendel de Horodok, il n'a pas grandi dans une famille chassidique, comme la majorité d'ailleurs des gens de l'époque, hein, il n'y a pas encore. Donc il n'a pas grandi dans une famille chassidique, mais il a appris chez le Magid de Meziritch, lorsque le Magid de Meziritch était encore en train de se rapprocher du Baal Shem Tov. Ça veut dire que Rabbi Menachem Mendel de Horodok a connu le Magid de Meziritch alors qu'il était encore en train de se rapprocher du Baal Shem Tov. Là, il raconte comme ça. Une fois, c'était un Shabbat après-midi. Qu'est-ce que fait un Talmid Chacham Shabbat après-midi? Un Shabbat d'été comme ça, dans lequel tu as 4-5 heures, 5 heures plus, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Bon, il va faire une petite sieste, mais qu'est-ce qu'il va faire?
Il
va étudier plusieurs pages de Gemara. Plusieurs pages de Gemara, et en plus, comme il n'y a pas de distraction, il va étudier la Gemara avec approfondissement. Alors, il raconte que, comme ça, il était à Shabbat après-midi, il avait étudié plusieurs dapim de Gemara avec approfondissement. Et là, le jeune Mendel, donc Rabbi Menachem Mendel, mais bon, il reste encore un jeune Mendel, il tourne dans la maison. Il tourne dans la maison comme ça et comme ça, tu vois, il se tourne comme ça. Et quand on voyait qu'il était bien, tu vois. Bah, la vérité, il venait d'apprendre plusieurs pages de Gemara, il se sentait bien. Il se sentait bien. Et là, le Magid de Meziritch, il voit son élève Mendel passer et il voit qu'il est bien. Il lui dit, Mendel, combien de dapim de Gemara t'as pris aujourd'hui? Et il lui dit, ah, je viens d'apprendre 6 dapim dans l'approfondissement.
Dapim.
D'accord, 6 pages. Alors il lui dit comme ça.
Taf. C'est la page.
Alors il lui dit comme ça, c'est pas mon chapeau que je vais vous montrer. Il lui dit comme ça. Il lui dit, si après 6 pages de Gemara, le chapeau est déjà penché comme ça, combien de pages de Gemara il faut pour que le chapeau va tomber? Et une autre histoire comme ça. Hein, qui a dit, j'ai étudié 100 pages de Gemara. Alors le rabbi il a dit, toi t'as étudié la Gemara, mais qu'est-ce que la Gemara t'a appris? Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la Gemara? Une autre question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit sentir que quand on étudie la Torah nous change. C'est pas une simple curiosité et c'est pas une simple science. On doit sentir que quand j'étudie la Torah, je suis en train d'accueillir et d'inviter la Shekhina, la présence d'Akadosh Baruch Hu en moi. Alors, c'est automatique, mais ça peut être subconscient, pas conscient. Et quand c'est subconscient et pas conscient, ce qui peut se passer, c'est que l'effet que la Torah aura sur moi peut être contraire à l'effet souhaité. L'effet souhaité que devrait avoir la Torah, c'est plus j'étudie, plus je me sens petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, des fois, la Torah peut amener à l'orgueil.
Oui, parce que je sais, toi tu sais pas.
Voilà, moi je sais, toi tu sais pas. Moi j'ai compris, toi t'as pas compris. Tu n'as rien compris. Ça veut dire qu'on utilise la compréhension de la Torah pour écraser un autre. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors ça peut arriver en parole, ça peut arriver en pensée, ça peut arriver en beaucoup de choses, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il est important, de se rappeler ce qu'on dit ici. Comment? Ashreinu matov chelkenu. Combien sommes-nous heureux d'avoir la chance d'étudier la Torah, mais de comprendre que quand on étudie la Torah, on étudie la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on étudie comment Akadosh Baruch Hu, on étudie la façon comment Akadosh Baruch Hu s'est réduit dans ce, monde.
Il y a quand même
Kenu, Kavod, la Torah. Non, bien sûr. Il n'y a pas de question dessus. Mais on ne donne pas le Kavod à une personne, on donne le Kavod à la Torah qu'il a en lui. C'est pour ça, la Gemara dit clairement, elle dit combien sont bêtes ces gens-là qui respectent un livre, qui se lève devant un Sefer Torah, donc qui respectent un livre, mais qui ne se lèvent pas devant Talmid Chacham. Je ne parle pas de se lever comme les Marocains et se lever, pas se lever, c'est pas de ça, c'est pas de, je ne parle pas de Ménic.
Alors,
ouais.
Prends un verre de coca, ça va t'arrêter.
Regardez, ils m'ont mis en boucle. Voilà.
Bah, c'est normal.
En sandwich. Ah, en plus, j'en ai un là. Regardez, ils m'ont pris, il manque un derrière. Le trio. Non, sérieusement. Je ne parle pas du tménique, est-ce qu'on va se lever devant quelqu'un, passer devant quelqu'un. Je parle de la notion de respect. Le respect qu'on doit avoir à un Talmid Chacham, pas en tant que Talmid Chacham, parce que c'est une personne qui a étudié. Parce qu'il a la Torah en lui. Il a la Torah en lui. C'est une personne qui véhicule la Torah. Donc il la mérite. Alors, c'est ce que dit ici donc l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il nous explique ici, bonsoir. L'Admor HaZaken explique que ça, c'est très important de faire un effort et de se remettre en question. Vous savez, c'est pour ça que dans les Shivot Chabad, on insiste énormément pour qu'en plus de l'étude de la Gemara qui occupe bien sûr la majeure partie de la journée, c'est-à-dire qu'il y a au moins, je sais pas, au moins 7 à 8 heures par jour de Gemara, minimum. D'accord?
Mais c'est là où on parle du Shor, là, qui a cassé le... C'est ça la Gemara?
Pas que ça, il y a ça.
Il y a ça aussi, oui.
Le Shor, là, il s'est embourbé dans je sais pas quoi. Après, qui c'est qui va payer? Il s'est cassé de la jambe. Et si tu le tires, il fallait pas le tirer, il est à toi. Enfin, bon.
Attention, Jacques, il va s'en aller. C'est très intéressant.
Il n'avait pas parlé jusque-là.
Je suis sûr que ça vous aura intéressé, M. Benita. On sait jamais, hein? On sait jamais.
Ah,
ça lui aurait plu, là, qu'est-ce qu'il pense? Je suis sûr que ça lui aurait plu. Hein. Ça plaît à tout le monde.
Il
faut savoir adapter, c'est tout.
Il y
a des questions, là, que moi. Regardez, ils vont vous raconter le cours du dimanche matin. On a fait combien de cours sur...
Ah oui,
on parlait des Marocains. 5 ou 6 cours sur quoi? Hein? Disons-le.
Sur les toilettes.
Sur les toilettes. Et avec ça, à la fin, bon, j'ai vu qu'ils ne tenaient plus, donc j'ai bradé.
Non.
J'ai bâclé.
C'était très détaillé.
Très détaillé. Mais dans les détails, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Et la Torah parle de tout. Il n'y a rien qui n'est pas écrit dans la Torah. Après, il faut le trouver. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on étudie la Torah, on doit avoir conscience qu'on étudie un outil extraordinaire, un outil divin. Ce n'est pas un outil humain, c'est un outil divin. Et on doit être heureux de pouvoir étudier la Torah. Ce matin, justement, on parlait de ça, je vais répéter l'histoire, parce que je pense que c'est une histoire intéressante. Ce matin, je leur racontais l'histoire qu'au tout début de la Haskalah. Haskalah, c'est l'émancipation. Et les pharisiens, etc. Bon. À l'époque de la Haskalah, juif émancipé en Russie, juste très intelligent, mais bon, malheureusement, bon, c'était un peu loin de la Torah. Ils n'arrêtaient pas de parler de la science et de l'intelligence des juifs, etc. Il y avait là-bas un baron, je ne sais pas si c'était un ministre ou quelque chose comme ça, qui était aussi intelligent et qui leur a dit: vous n'arrêtez pas de me parler de votre talmud, montrez-moi quelque chose. Alors ils lui ont dit: pas de problème, on va te préparer une souga. C'est un sujet de Gemara. Et comme j'ai raconté ce matin, ils ont choisi la souga de la Gemara de Tagareloud. C'est une souga dans les Zéhoun Echer, dans la Gemara Bamitia. Tagare Loud, c'est les commerçants de Loud. C'est une souga de référence dans la Gemara, très intéressante d'ailleurs.
Chapitre,
parce que
ça veut dire.
Non, c'est un sujet. Tout un long débat, etc., avec ça part dans tous les sens. Les commerçants de Loud. Ils avaient des techniques commerciales particulières, et on doit rentrer dans les détails. Est-ce que c'est ribite, est-ce que c'est pas ribite, etc. Ça, et c'est un sujet avec beaucoup de ramifications. Je pense que ceux qui ont étudié, c'est un sujet très intéressant. Et bon, ils se sont dit: voilà, on se rappelle quand on était à l'Echiva, on a étudié ça, on va lui faire ça. Donc ils ont bien bien préparé leur sujet. Ils sont venus, ils ont dit: voilà, on a préparé un super sujet. Ils lui ont fait un exposé de 2 heures. Ils lui ont fait un exposé vraiment un exposé intéressant. Des gens intelligents. Ils lui ont fait un exposé de 2 heures. À la fin de leur exposé, le gars il regarde comme ça. Il leur dit: c'est tout, c'est ça? C'est ça votre science? Alors, en vérité, ils étaient déçus. Ils ont dit: quoi, attends, dis-moi, c'était magnifique ce qu'on lui a raconté. Qu'est-ce qu'il est là? Il est pas bête pourtant, ce bonhomme. Alors, ça les a intrigués, ils sont partis voir, d'après l'histoire que j'ai lue, c'était Rabbi Chaim de Vologine. Ça les a intrigués. Ils sont partis Rabbi Chaim de Vologine, ils se sont dit: on va lui demander, peut-être qu'on a mal compris la Gemara, peut-être qu'il y a un truc. Ils sont partis le voir, ils ont dit: voilà, on a fait rendez-vous avec un tel, on lui a parlé, voilà ce qu'on lui a dit. Il a dit, oui, c'est très juste que vous avez dit qu'ils avaient des chidushim. Il a dit, mais ça ne l'a pas impressionné, il n'a rien compris. Il a dit, mais vous ne comprenez pas. Il a dit, celui qui n'a pas la tête d'un juif ne peut pas comprendre.
C'est un peu prétentieux.
Pas du tout. Pas du tout. C'est que la Torah est un outil divin. C'est pas une science comme on pourrait avoir beaucoup de sciences. La Torah est un outil divin. Et pour comprendre la Torah, en particulier la Torah orale, pour comprendre, il faut un récepteur. Il faut un ustensile, il faut un outil adapté pour capter ça. Alors, bien sûr, ce matin, ils ont parlé, ils ont dit que maintenant, on dit qu'en Corée, etc., oui, en Corée du Sud, sans rien apprendre la Gemara. Ça n'a rien à voir. Je parle de comprendre la finesse de la Gemara, la finesse, la divinité qu'il y a dans la Gemara. Ça, un goy ne peut pas comprendre. Mais c'est pas une insulte. On n'est pas en train de dire qu'ils sont, on n'est pas en train de se prendre pour des gens, qui sont très très élevés. On n'est pas en train de les prendre pour les arriérés. C'est comme ça. Il y a des gens qui, c'est comme par exemple, tu vas aller voir un Anglais, il peut être très avancé, il comprendra pas les nuances de la culture française parce qu'il n'a pas grandi dedans. Il n'est pas équipé pour ça. Il ne pourra pas comprendre les nuances de la culture française. Il ne peut pas.
Tu dis ça à un goy,
pas du tout.
Il va te dire, je vais étudier avec toi la Gemara.
Moi, je peux te dire un truc. Est-ce que tu penses que tu es en état de comprendre les nuances de la culture anglaise? Moi, je suis incapable. Vous êtes capable, monsieur Barour? Moi, je suis incapable.
Non.
Je suis incapable. Ça veut dire que tu entends deux Anglais parler, un bon Anglais, il va dire, lui, il a parlé comme ça, lui, il a parlé comme ça, il y a une nuance. Moi, je suis incapable. Pourtant, je comprends parfaitement l'anglais.
À condition.
Pourquoi?
À condition d'avoir préalablement étudié.
C'est une culture.
Comme l'Ecclésiaste, qui lui aussi a étudié beaucoup la Bible, etc., les textes, etc., il est capable de les décortiquer, de les expliquer beaucoup mieux qu'un juif.
Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Talmud, c'est pas seulement une science. Le Talmud, c'est un vécu.
Et ça s'adresse.
C'est une manière de voir les choses. C'est quelque chose, celui qui n'est pas dedans, il peut pas comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui viennent du monde universitaire, ils ont beaucoup de mal avec la Gemara. Ils ont beaucoup de mal. On connaît l'exemple de Benny Levy. Benny Levy, la vache à l'homme, qui a fait une teshuva extraordinaire, et qui encore des mois et des années après, bon, et attention, il a fait un chemin extraordinaire, hein, Gemara, Rashi, Tosfot, ça lui est arrivé de dire, rendez-moi mon Sartre. Parce que, faut comprendre, c'est un parcours extraordinaire, c'est très difficile. Il faut casser son cerveau pour changer sa façon de réfléchir. C'est difficile, mais on a les outils pour. On peut y arriver.
Si tu permets, j'ai entendu un chidouche là pendant Pessah, c'était assez intéressant. Il dit que quand on a été devant le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, en fait, il y a eu une modification d'un gène qui fait qu'à travers de ce gène, ceux qui étaient là-bas, ont été en mesure de comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre.
Alors, peut-être ceci peut expliquer cela.
Je vous disais ce matin. Pardon. C'est la même chose. C'est ce que Freud disait, les juifs ils sont juifs parce qu'il y a un gène en eux. Et même un juif athée, il est juif quand même.
Bien sûr. Oui. Ah, ce que vous m'avez dit que Freud dit.
Oui, mais la Hassidoute, elle le dit.
Il insistait beaucoup là-dessus.
Mais oui,
parce que lui-même s'appelait un juif athée, il se présentait comme ça. Mais il se considérait comme un juif.
Ouais. Il a vécu longtemps à Paris, vous savez.
Oui, j'ai vu, c'est très joli.
Il a fait l'école de Lacan.
Petite plaque là-bas. Dans le cinquième.
C'est un petit hôtel très modeste, mais c'était commode pour lui, c'était juste à côté de la Sorbonne. En plus, à côté du Luxembourg, ce qui est charmant.
Ouais, ça lui permet de méditer un peu. Bon,
ouais. Non.
Donc il n'était pas si athée que ça.
Non.
Il n'était pas si athée que ça.
Bon. Alors, on continue. Ouais. Donc il dit comme ça. Il faut bien comprendre que lorsqu'on étudie la Torah, comme on a expliqué. Lorsqu'on étudie la Torah, on est en train en vérité d'étudier la science divine. Et ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça même, ça devrait nous amener une simra. Alors, dit l'admor Hazaken, Azaï, à ce moment-là, Ve'im yachiv Hashem lo'od. Là maintenant, l'admor Hazaken s'adresse aux Benoni. Peut-être pas qu'aux Benoni. Il s'adresse à des gens comme nous. Des gens qui finalement sentent qu'ils n'étudient pas assez. Sentent que bon, on va étudier une heure, deux heures, etc. C'est pas assez. Morazakel le rassure. Il lui dit, dis-toi que même si tu as étudié une heure, tu as fait ce que tu as pu. Et sache que cette heure que tu as fait, tu as pris un extrait de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, l'essence, une fois que tu as attrapé même un tout petit peu, tu as tout. L'essence ne se mesure pas en quantité. L'essence se mesure en qualité. Attraper l'essence divine. Mais, cependant, Ve'im yachiv Hashem lo'ot, si Dieu t'élargira, Ve'ezrat Hashem, tu gagneras au loto. et que tu pourras. Dieu il va t'élargir.
Mais d'accord, il a quand même dit qu'il fallait jouer.
C'était la Genèse. Hein.
Alors, à ce moment-là, Azaï, à ce moment-là, Tehor, Yadai, Mosifomet. Je termine la phrase.
Il y a une prophétie.
Tu dois te dire que si Dieu il t'élargira, alors dans ce cas-là, Tehor, Yadai, Mosifomet, celui qui a les mains pures pourra rajouter la puissance, ça veut dire quoi? C'est une expression de Michelet, de Iov, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aurai les mains libres, je pourrais plus étudier. C'est très intéressant. Job, il dit comme ça.
Pourquoi les mains pures, alors?
C'est intéressant parce qu'il dit comme ça. Il dit, lorsqu'on a les mains occupées, la tête est occupée aussi. Et lorsqu'on a les mains libres, la tête est disponible pour réfléchir. En d'autres termes, les mains occupées, ça représente les affaires. Le travail. Qui ne nécessite pas forcément tout le temps la tête. Ça nécessite l'action. Mais quand les mains sont occupées, la tête n'arrive pas à réfléchir. Mais Tehor Yadaim, celui qui a les mains pures, dans le sens que ses mains sont plus dérangées, elles sont propres. Sont plus dérangés, Yosif Ometz. Ça lui donne la possibilité de rajouter encore plus. Et là, il rajoute une phrase extraordinaire. Il y a un dicton dans la Gemara qui dit comme ça. Machashava Tova, roulé, etc. Qu'est-ce que dit l'Admor HaZaken? La Gemara dit comme ça. Machashava Tova, Akadosh Banhu Metzarfa Lema'ase.
Une bonne pensée.
Une bonne pensée. Dieu la considère. Je traduis ça comme ça pour l'instant, mais on verra après quelle est la traduction. Dieu la considère comme une action. Ça veut dire comme ça. Là-bas, la Gemara donne un exemple. Si une personne a pensé faire une mitzvah, mais concrètement, il n'a pas pu la faire. Par exemple, vous avez pensé, il y a un ami à vous qui est malade, vous avez pensé lui rendre visite. Vous avez pris la voiture, vous êtes parti lui rendre visite, vous êtes arrivé, il t'a dit, ah, écoute, il dort, il ne peut pas te recevoir. Donc du coup, tu ne l'as pas rendu visite. Tu as eu une bonne pensée, mais qui n'était pas accompagnée de l'action.
Si, tu as fait l'action.
Non, c'est pas une action. Enfin, en tout cas, le résultat n'était pas là.
Le résultat
n'était pas là.
Une action finie.
Bon, alors chez les autres, ils disent que le chemin vers l'enfer est parsemé de
bonnes intentions.
Ah bon, voilà. Vous l'avez dit. Alors, c'est ce qu'ils disent, non?
Ouais.
Bon, nous dans la Torah, on va beaucoup plus loin. L'Avdil. On dit qu'une bonne intention est considérée comme une action.
Extraordinaire. J'ai voulu donner la tzedaka. Oh, moi, j'ai
voilà.
Oublié.
J'ai voulu donner la tzedaka. Je pensais que j'avais dans ma poche. Et ma main, je voulais donner. Je mets la main dans la poche. Je vois qu'en fait, non, j'ai oublié. J'utilise, j'ai pas. Attention, on parle de sincérité ici. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, Metzarfa, le Marasé. Donc voilà ce que dit l'Admor HaZaken. C'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il dit, là, on parle d'un juif qui aurait voulu étudier la Torah plus longtemps. Il aurait voulu baigner dans l'étude de la Torah, il aurait voulu être plus versé dans les livres. Malheureusement, son programme fait qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il est occupé, il a une famille, il a des enfants, il a une parnassa, il ne peut pas le faire. Mais il veut vraiment étudier. Vous savez ce que dit l'Admor HaZaken? Sache que d'une certaine façon, si tu veux vraiment étudier, c'est comme si que tu as étudié. Cependant, en fait, l'Admor HaZaken ici, il a un autre pshat de la Gemara. Agmar a dit que lorsqu'une personne a une bonne pensée, Dieu la considère comme une action. Mais il y a encore un autre pshat. C'est quoi l'autre pshat? C'est que lorsque tu as une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu la convertit en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'arrange pour que la bonne pensée que tu as eue finira par être réalisée. Metzarfa le ma'asé. C'est quoi les tsaref? Les tsaref, c'est l'action de raffiner. Vous savez, c'est comme quand on va raffiner dans un creuset. C'est-à-dire, on va prendre une mine, on va prendre, etc., on va raffiner. Alors, au début, tu vois, tu crois que c'est rien, c'est de la terre, c'est etc., grossier. C'est grossier. Mais, celui qui veut trouver de l'or, Metzarfa les marassé, il finira par trouver l'or qu'il a cherché. C'est la même chose. Nous aussi. Même si, bon, j'étudie pas comme j'aurais voulu, mais si je veux au fond de moi, je finirai par arriver à ce que je veux. Je finirai par arriver à mes fins et à ma faute. Et ça marche. Et donc, du coup, dit l'Admor HaZaken, il dit, à ce moment-là, Vegam she'ar ayom kulo. Imaginons le juif qui a un cours de Torah le matin, un cours de Torah le soir, mais qui va passer le plus clair de sa journée à travailler. Il aurait aimé étudier la Torah toute la journée, mais il peut pas, parce qu'il travaille. S'il avait gagné au loto, il serait pas parti passer le reste de ses jours à Ibiza.
Peut-être.
Il serait parti étudier la Torah.
L'après-midi.
D'accord? Mais, concrètement, le reste de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les affaires, il n'est pas dans la Torah. Qu'est-ce que tu dis là de Admor HaZaken? Il te dit, Vegam, Sharyam Kulo, Shosek Masao Matan, Yemachon, les chiffres de Yidbar, Bintinat, Tzedaka, Shiten Migio. Même le reste de la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Le reste de la journée, il va essayer de servir à Kadosh Baruch Hu, d'être annulé à Kadosh Baruch Hu dans ses affaires. Comment ? Il va se dire, je vais travailler pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je vais travailler pour donner la tzedaka à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est la même chose. Il utilise la même dynamique. Qu'est-ce qu'on a dit ? Celui qui étudie la Torah une heure par jour, mais qui veut étudier la Torah toute la journée, d'une certaine façon, on le considère comme si qu'il avait étudié la Torah toute la journée. Et il finira par y arriver. De la même façon, celui qui va donner 10% de ses revenus, mais qui aurait envie de donner 100% de ses revenus à la tzedaka, mais il peut pas parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Et ben, d'une certaine façon, si tu veux vraiment donner plus, mais que tu peux pas, Akadosh Baruch Hu te dit, je te considère comme si tu avais donné, tout ce que tu voulais. Mais ça, c'est ma mâche. Je parle de Kavana, là. Hein, je parle pas de mythomane. Je parle de vrai Kavana.
Il faut que la personne, si elle est...
C'est entre vous et Dieu.
Oui, mais il faut que cette personne, si elle est en condition où elle peut faire ce qu'elle pensait faire, qu'elle le fasse.
Voilà, exactement.
Donc quelqu'un qui travaille toute l'année et qui étudie une heure par jour, et lorsqu'il est en vacances, il étudie aussi une heure par jour...
Il y a un problème.
Pas qu'il aime être sa
réponse. Là, tu as raison. Là, il y a un problème. Mais bon, par exemple, tu as quelqu'un qui est venu ramasser de l'argent. Et tu donnes une somme.
En vacances, c'est plus compliqué.
Et la vérité, tu sais, les gens, quand tu ramasses l'argent, ils te disent, la vérité, j'aurais aimé te donner plus. Mais ils le pensent, Bémet. Ils pensent, Bémet, je te donne ça, mais j'aurais vraiment aimé te donner plus. Parce que ça me touche ce que tu fais. Mais je peux pas te donner plus. Et sincèrement, j'aurais aimé te donner plus. Si j'avais ma main, j'aurais donné. Et ben, d'une certaine façon, à Kadosh Baruch Hu, celui-là, c'est comme si qu'il a donné.
Et celui qui a reçu.
D'accord? Bon, il a pas reçu les billets, mais.
C'est comme lui que je t'ai donné.
Et non mais ça vaut quelque chose à la banque les promesses. J'ai des promesses, t'inquiète pas.
Je veux dire,
alors l'emprunt russe, t'appelles ça, c'est quoi l'emprunt russe?
L'emprunt russe, c'est ce qu'ils avaient contracté tous. Ils avaient de l'argent, donc ça vaut.
Ah oui, d'accord, oui ça,
ça
vaut.
Zéro.
Ça vaut zéro.
Moins que zéro.
Alors chez Hi, Mimi de Taf, chez la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il va aller encore plus loin que ça. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Le but de ce pérec du chapitre, c'est de parler de Merkava. C'est quoi Merkava? Merkava, c'est être soumis à Kadosh Baruch Hu. Comment je suis soumis à Kadosh Baruch Hu? Comment je suis soumis à Kadosh Baruch Hu? On a donné plusieurs exemples. On peut être soumis comme le patriarche. On peut être soumis en ayant un cours de Torah fixe. On peut être soumis en voulant étudier plus. Même si on réussit pas, on te dit, c'est comme si tu avais étudié plus. On peut être soumis en donnant la tzedaka et en voulant donner plus. Mais il va aller encore plus loin que ça. Il va dire, réfléchissons un petit peu. Lorsqu'une personne donne la tzedaka, c'est bizarre de donner la tzedaka. Je me rappelle, on m'a raconté une fois que Hervé Goldstein, c'était un expert comptable qui, je crois, qui vit toujours à Paris, je crois que entre Paris et Israël. Hervé Goldstein, il est en Israël maintenant, d'accord. Sidney le connaît bien aussi. Hervé Goldstein, c'est lui qui a poussé le Rav Azimov Zichrono Livracha à commencer à faire le gala du Beit Lovitch. Bon, parce que jusqu'en 94-95, il n'y avait pas de gala. Et Hervé Goldstein expliquait, il a dit, écoutez, vous savez, maintenant dans le monde, ça marche avec des galas, les gens ont besoin d'une bonne table, etc. Et autour d'une table, on donne plus facilement. Alors bon, le Rav Azimov ne voulait pas trop s'en occuper. Hervé Goldstein, il lui a dit, je m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe, et c'est là qu'il a créé, avec plusieurs personnes, le comité de soutien du Beit Lovitch. D'accord ? C'est lui qui a créé ça, et maintenant il y a un comité qui s'occupe chaque année de faire le gala du Beit Lovitch. Comité de soutien du Beit Lovitch. Et Hervé Goldstein, quand il a parlé de ce gala, moi j'étais pas là, mais on m'a raconté. Quand il a pris la parole, il a dit, mais les juifs sont fous. Il dit, mais je comprends pas. Les gens, ils sont chez eux à la maison, tranquillement. Ils vont s'habiller. Ils vont se faire beau. Ils vont prendre leur chéquier. Ils vont aller dans un endroit. Ils savent qu'on va leur demander de l'argent. Et ils viennent avec le sourire.
Et ils ont payé l'euro.
Et ils payent. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tu vas dans un endroit, tu sais qu'on va te demander de l'argent. C'est pas que t'es venu et qu'on t'a pris en otage, les bancs. T'es venu pour une chose, tac, on t'attrape. Il vient pour donner.
On vient pas donner.
Il vient pour donner.
Il vient prendre des mitzvahs.
Il vient pour donner. Parce que Béhémet, quand on fait une mitzvah comme on faisait la tzedaka, pourquoi on le fait? Alors je parle pas, c'est expliqué dans le Tanya, et pas d'ailleurs dans le Zohar, c'est basé sur le Zohar, qu'il y a une différence entre la façon comment un juif donne la tzedaka et comment un non-juif donne la tzedaka. Ou en tout cas, comment un juif devrait donner la tzedaka. Le Zohar est très clair, il dit que toute la tzedaka que donnent les nations, c'est par intérêt personnel. Ça peut être un intérêt très noble. Et c'est normal. Il n'y a rien de négatif dans ça. L'homme est créé de façon égoïste. Mais il y a quelque part un intérêt personnel. Je le fais parce que j'ai envie d'aider, parce que cette cause me tient à cœur, parce que je veux faire. Chez le juif, je ne dis pas qu'on arrive tous à le faire, mais on a en tout cas ça en nous, la possibilité de donner la tzedaka parce qu'il faut le faire. C'est tout. Parce que Dieu a demandé. Pour s'identifier à Kadosh Baruch Hu. Dieu le fait, moi aussi je le fais. Dieu nous aide sans raison, moi aussi j'aide sans raison. Et ça, il faut être fou pour le faire. Ça, il faut être fou pour le faire. Donc là, il faut être Merkava. Il faut quelque part éteindre son cerveau. Quand quelqu'un vient à un gala et il sait qu'il va donner de son argent, alors qu'il aurait pu acheter, même si quelqu'un il a beaucoup d'argent, il aurait pu acheter avec ça encore un yacht, encore un avion, encore un bateau, encore un truc, il aurait pu. On peut toujours trouver quoi faire avec l'argent. On peut toujours trouver quoi faire. Il aurait pu prendre des billets, les fumer en cigarette. Ouais, il y a des fous, on peut faire ce qu'on veut. Hein, il y a une idée comme ça. Ça plus quoi faire avec leur argent. Hein, ça, c'est un coup de pub. Bon, alors.
On va gagner l'auto et on va faire un yacht.
Mais ça, c'est le juif. Le juif, il veut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il veut s'identifier à Kadosh Baruch Hu. De la même façon que Dieu est miséricordieux, moi aussi, je suis miséricordieux. Ce que je veux montrer par ici, c'est que vous voyez, on n'a pas besoin d'être des patriarches. On n'a même pas besoin d'être toute la journée dans l'étude de la Torah. On aimerait le faire s'il faut. Mais du fait même que j'aimerais étudier la Torah tout le temps, que j'aimerais donner plus d'argent à la Tzedaka, et que quand je le fais parce qu'il faut le faire, pas parce que j'ai envie de le faire, pas parce que ça me parle, parce qu'il faut le faire. Et c'est comme ça. Et bien, quelque part, je suis Merkava à ce moment-là. Je suis annulé à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est le niveau de Merkava. Ce qu'on voit clairement dans ce cours, c'est que les patriarches nous ont légué cette qualité, qui est une qualité typiquement juive. Faire le bien parce que c'est le bien. Pas parce que j'ai envie de le faire. Le Rav Stenzel, c'est un exemple pour illustrer ça. Un exemple que je vous ai raconté, mais bon, ça fait quand même plusieurs années, donc fait plus de 2 ans, donc je vais répéter. Il donne un exemple intéressant. Stenzel. Le Rav Adin Evan Israël, dans son commentaire sur le Tanya. Il dit comme ça. Dans son commentaire sur le chapitre 1 du Tanya. Chapitre 1, bon, ça fait un bout de temps quand même. Il dit, imaginez un philanthrope. Philanthrope. Une personne qui aime aider. Bill Gates. 95% de sa fortune, il a donné. 90 ou 95. Bon, c'est déjà pas mal ce qui est resté, mais... 95% de sa fortune, il a donné pour des œuvres charitables, pour des pays du tiers-monde, pour la recherche de la maladie, etc. Bon. Et c'est pas le seul. Très bien, c'est magnifique. Magnifique. Colacavote. Il aurait pu trouver quoi faire avec cet argent. Mais, il a pris cet argent, et avec ça, il a donné des œuvres charitables. Donc, on va dire qu'une partie de ses dons, c'est pour des pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a des pays du tiers-monde qui sont dans le besoin, et il les aide. C'est magnifique. Très bien. Imaginez que M. Bill Gates se réveille demain matin, et qu'il apprend qu'il n'y a plus de pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde, ils sont riches maintenant. Est-ce qu'il va être content pour eux? Ou est-ce qu'il aura un petit sentiment de déception qu'il ne peut plus les aider? Très compliqué comme question.
À mon avis, il va être content. Il va orienter son épargne vers d'autres...
Oui, d'accord. Donc, non, mais il n'y en a plus. Tout le monde est riche maintenant. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Il ne sert plus à rien ton argent.
C'est grâce à lui.
Hein? Est-ce qu'il va dire, je suis content, tant mieux pour eux? Ou est-ce qu'il aura un petit pincement dans le cœur qui va dire, bon, mon argent ne sert plus à rien? C'est ça. Ouais. Et ça, c'est la différence qu'il y a. Alors, je ne dis pas que tous les juifs sont comme ça. On a ça en nous, mais après, est-ce qu'on le développe ou pas, c'est une autre question. Ça, c'est la différence entre l'homme en général, l'humanité en général, et la qualité de la tzedaka juive. L'homme en général, il veut aider, mais il faut qu'il ait un petit retour, même très subtil, dans le sens que j'ai aidé. Le juif, il a la capacité de le faire, d'aider, parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire que le juif qui a découvert qu'on n'a plus besoin de lui, il va être content. Il avait l'habitude tous les jours d'aider quelqu'un, de faire la tzedaka à quelqu'un. Et un jour, il apprend, il a trouvé du travail. Au Hachem, je suis content pour lui. Je suis content, grâce à Dieu, tant mieux. Mon argent, il s'appelle, mais c'est pas grave, tant mieux, il est bien, c'est ce qui compte.
D'accord.
Moi,
c'est ça.
Le donateur, lui aussi, il fait des économies.
Non, mais il n'y a plus rien à faire. Il va faire quoi avec ça? Il n'y a plus rien à faire avec ça. Ce que je veux montrer par ici, c'est que chez un juif, on a cette capacité de Merkava, de faire le bien parce que c'est le bien, comme Dieu le fait. On dit que Dieu, lorsqu'il nous a créés, pourquoi il nous a créés? Ça, on va y arriver dans le chapitre 36, la fameuse question. Une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est parce que Dieu est gentil. Dieu veut faire le bien pour le bien. Est-ce que vous croyez que c'est une affaire rentable, le monde, pour Dieu?
Aujourd'hui, non.
À long terme? Est-ce que c'est une affaire rentable?
C'est une affaire d'emmerdement.
Quand tu tombes dans une affaire, et que tu croyais que ça allait être rentable dans 5-10 ans, mais que tu vas de galère en galère en galère en galère en galère, que c'est un gouffre. Qu'est-ce qu'il dit, l'expert comptable?
Ferme.
Il dit, écoutez, il faut fermer pour une structure.
Un hein
pas possible. Hein? Eh ben oui. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous donne pour donner. Il donne pour donner. C'est tout. Point bas. Alors, ce qu'il dit, c'est l'admorzaken. On va reprendre maintenant dans les mots. Alors, prendre les mots de Morazake Midi. Alors, je suis dans le. On va essayer de finir le chapitre. De Gam She'ar Hayom Kulo. Je suis à la page 104. On va accélérer un petit peu. Parce qu'on l'a fait à l'oral. De Gam She'ar Hayom Kulo. Chez Oseg Massa ou Matan. Même le restant de la journée dans laquelle on fait les affaires. Yemachol Shifto Yidbarer Betinat Azdaka Shite Megio. Donc là, il explique comment finalement, c'est pas si compliqué que ça d'être soumis à Kadosh Baruch Hu et d'être Merkava. Il dit, regarde, tu vas étudier la Torah, tu le fais pour Dieu, t'as envie d'aller dormir maintenant. Tu es venu au cours de Torah. Ensuite, tu as gagné de l'argent, tu vas donner la tzedaka. Ça, c'est une soumission. Et même la tzedaka que tu as donnée, tu vas la donner pourquoi? Pour te faire plaisir? Non. Tu vas la donner. Shehi mimidotav shel Kadosh Baruch Hu. Tu vas la donner parce que donner la tzedaka fait partie des qualités d'Akadosh Baruch Hu. Que, comme dit la Gemara, on nous demande de nous coller à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit comment on peut se coller à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'il faut s'identifier à Dieu. Mahurahum verhulé. De la même façon que Dieu est miséricordieux, toi aussi sois-le. Ça veut dire que finalement on cherche à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Merkava Rabotai. Ça veut dire que non seulement que je fais ce que Dieu veut, mais je le fais comme si j'étais Dieu moi-même. C'est comme si que Dieu est en train de faire la misère dans ma main. Je le fais comme si c'était Dieu qui le faisait. Ça c'est la tzedaka typiquement juive. Comme par exemple, on sait que, vous savez, juste deux secondes, on dit qu'un des plus hauts niveaux de tzedaka, ceux qui étaient là, c'est l'être majeur, j'ai raconté une histoire autour de ça. Un des plus hauts niveaux de tzedaka, c'est quoi? C'est la tzedaka cachée. Tzedaka en cachette. Matan beseder. Tu donnes la tzedaka sans que tu saches à qui tu as donné et sans que la personne qui a reçu la tzedaka sache de qui elle a reçu. Ça c'est une des plus, ça c'est un des plus hauts niveaux de la tzedaka.
Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. C'est ça la tzedaka.
C'est qui ça?
Monterland.
Non. C'est un ecclésiaste qui a dit ça.
J'ai trouvé que alors.
Saint Augustin.
C'est pas Isabelle la Conquérante?
C'est Saint Augustin.
Dites-moi Est Augustin.
Augustin de Murcie, vous voulez.
T'es pas d'accord, Mendy?
Quoi?
Quand tu fais plaisir.
Bien sûr, c'est plaisir. Mais tu le fais pas parce que ça te fait plaisir. En tout cas, on peut arriver à un niveau que je le fais parce que je dois le faire.
Même si tu dois le faire,
la Torah n'est pas contre que tu aies du plaisir. Mais c'est pas la raison pour laquelle je le fais.
C'est pas le...
Et ça, c'est le point typiquement juif. Ça, c'est le point typiquement. C'est-à-dire que si par exemple, imagine-toi David, on te dit voilà, il faut aider monsieur un tel, t'as deux options. Soit tu viens le voir, tu lui donnes des espèces directement en main propre. Soit tu passes par quelqu'un, d'accord? Et on vient te voir, tu sais même pas qui tu vas aider. Tu dis voilà, écoute, je viens te voir pour quelqu'un que tu connais, pardon, mais qu'il sait pas qui tu. Enfin, il sait pas que tu le sais. Tu passes par une personne intermédiaire. Tu vas aider sans savoir qui tu aides et sans que celui qui sache il va t'aider. Quelle option tu vas choisir? C'est compliqué. En passant par le Panama, alors. Qu'est-ce qu'elle dit là?
Est-ce que c'est possible que ce soit un service rendu, mais pas en argent?
Bien sûr.
Ouais, tzedaka, ah, c'est pas que de l'argent.
Mais quand on fait un éder, ça rentre dans la tzedaka? C'est tzedaka?
Mais toi, t'as même pas eu l'idée que
ça puisse... Eh ben, ça s'appelle une tzedaka. Ça s'appelle s'identifier à Kadosh Baruch Hu. Faire le bien parce que c'est le bien.
Quand on fait un éder,
c'est ce que dit Rambam. Il dit « Ose atov, mi pene sheutov ». Il fait le bien parce que c'est du bien. Il n'a pas besoin d'autre raison. C'est le bien pour le bien.
Le neder, est-ce que ça rentre dans le cadre de la tzedaka?
C'est-à-dire?
Vous faites un neder.
Un neder de quoi?
Petihata echal. Est-ce que c'est dans le cadre de la tzedaka?
Oh, oui, bien sûr. C'est pas le plus haut niveau de la tzedaka, c'est sûr que non.
Ça vous rend service.
Parce que vous avez quelque part, vous récupérez quelque chose, après bon.
Donc ça rentre pas dans le cadre de la... C'est pas
une fois,
ça.
Quand,
c'est la case, c'est-à-dire que quand Avner,
le fils de Yves, ouais,
donc, si tu n'es pas en minute,
Avner, quand il avait 13 ans ou 14 ans, Avner, il m'a posé une fois une question. C'était le jour de Rosh Hashanah. Il m'a dit, je comprends pas. Il m'a dit, je comprends pas. Pourquoi la prière de la Parnassa, c'est les riches qui l'achètent?
Non, c'est très logique. C'est très logique.
Je ne sais pas quoi lui répondre.
Parce qu'ils ont tombé sans enrichir.
Je peux pas. Ben oui, mais c'est pas logique.
C'est normal.
Tu me dis ça, hein?
Mais non, non.
L'argent va à l'argent.
Non, même pas, non. Étant donné que c'est vendu aux enchères.
Oui, non, bien sûr. Voilà. Non, mais j'ai compris. Mais il pose la question dans le fond. Et c'est une question de fond qu'il pose.
Ben oui, mais
il a raison.
C'est une question. C'est logique que ce soit les riches.
C'est logique.
Parce
non,
que
c'est
les pauvres ne peuvent pas payer.
Mais parce qu'on ne prête pas.
Alors quoi? C'est ce que dit la Gemara. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit Batar Anya Azla Aniyuta. Après le pauvre, va la pauvreté. C'est-à-dire comme ça, je vous donne un exemple. Très simple.
Quand t'es pauvre, tu deviens de plus en plus pauvre.
Quand t'es pauvre, tu peux que devenir plus pauvre. Je donne un exemple. Imaginez une personne qui est pauvre. Il a pas de quoi payer son loyer. Il va faire un crédit.
On appelle ça le surendettement.
Il va faire un crédit. Seulement comme il est pauvre. Donc qui c'est qui va lui prêter ?
La banque.
D'accord ? Non, c'est pas la banque. Il va trouver les trucs de crédit à un taux usurier. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Revolver. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que ce monsieur, il va commencer, donc il s'avère qu'il va avoir un crédit à un taux de 20%, un taux usurier à la limite de l'usure. D'accord ? À la limite de l'égalité. Très bien. Il va commencer à payer son crédit. D'accord ? Il va avoir un retard de paiement. Ah, monsieur, on va le rendre fou, etc. Et à la fin, au bout de 2-3 ans, il n'a même pas fini de payer les intérêts du crédit. Il n'a même pas commencé à payer le crédit, voilà. Alors que de l'autre côté, le riche, quand il arrive à la banque, il veut faire un crédit, on le connaît.
C'est ce qu'ils font les Grecs.
Alors on lui fait un taux très bas. Ça veut dire qu'après, le pauvre a la pauvreté. Vous me suivez ?
On prête aux riches.
Ah oui ?
Ben oui, on ne prête qu'aux
riches. On prête aux riches. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le monde vit comme ça. On est dans le monde du mensonge. Et tout, etc. Ça, j'ai pris le nom des crédits, mais on prend tous les hommes qu'on veut. Etc. C'est-à-dire qu'après, il va aller se faire soigner, il va aller, etc. Les problèmes attirent les problèmes. C'est comme ça. C'est la loi des séries. Alors. Donc, en tout cas, dis si. Moi, j'ai qu'à tout petit coup, ni m'crête cette droite yémine.
La seule chose que tu nous as pas dit, c'est comment on fait fuir les problèmes.
Comment on fait fuir les problèmes,
voilà,
c'est-à-dire.
Contre-courant, c'est marqué.
Comment quelqu'un qui est pauvre, comment il fait pour s'éloigner de la pauvreté ?
Il prie.
Il achète la part.
Il travaille. Enfin. Si c'est tellement voilà, bien, tout le monde l'aurait acheté. Hein.
Déjà de la Guémara, c'est machma, on peut comprendre qu'une grande partie de la pauvreté se trouve dans la tête.
Si ça enrichit tellement,
dans la tête. On peut être riche dans sa tête ou pauvre dans sa tête. C'est un état d'esprit. J'ai vu des gens comme ça qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont un esprit large. D'un côté, tu vois des gens qui ont un esprit mesquin dès le départ. Ça veut dire qu'ils s'imaginent pas s'en sortir de là. Tu peux pas l'en vouloir, il a grandi comme ça. Bah oui, comme il dit Rambam. Rambam, il dit, une personne qui naît dans une famille riche a une très forte chance d'être lui aussi riche par la suite. Une personne qui naît dans une famille pauvre, bah, il a de fortes chances d'être pauvre par la suite. Ah, bien sûr qu'on aura toujours le cas modèle que vous trouverez dans le challenge, je ne sais qui va vous dire, ben voilà, il vient d'une famille pauvre et il a percé, etc. Hein ?
Le maire de Londres.
Le
Pakistanais.
Voilà, le maire de Londres.
Chauffeur de taxi de bus.
C'est un parcours intéressant. Et c'est un parcours atypique. Et c'est un parcours exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire c'est exceptionnel.
Des parcours comme ça, ça marque.
Ça fait peur,
c'est bénéfique. Oui, bon, ça fait rêver, c'est bien.
Ça fait peur.
Pourquoi ça fait peur ?
Moi, je suis venu maire de Londres.
Ah, peut-être que.
Il y a un petit bien d'après ce qu'ils disent.
Les Londoniens vont se sentir peut-être plus protégés d'avoir un maire arabe.
Jean, il dit senti bien.
C'est ça, donc, le maire arabe.
Oui. Comme le Canadien.
Ah, il est avocat des droits de l'homme. Ah, laisse tomber.
Il a quoi fait ?
Ça, c'est laisse tomber, ça.
Il a ?
Non, c'est un avocat. Les avocats des droits de l'homme, laisse tomber. Ça, c'est. Bon.
Voilà. Il a dit déjà que les.
Bah, c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il règle les comptes. Alors, on continue.
Vous pouvez remonter l'Angleterre avec l'Israël, avec les terroristes, c'est à cause d'Israël.
Ah, chez Nonoten.
Ouais, c'est connu ça.
Maintenant, on va continuer un petit peu.
Canadien,
je ne sais pas si on l'entend finir, mais.
Non,
okay, bon, on n'aura pas le temps.
Non, c'est pas
fini.
Hein?
Ah, je suis en haut de la page 105.
Elle est folle.
Revenons maintenant, Rabotai, à ce monsieur qui donne la tzedaka. Donc, voilà, on a notre scénario type. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Une personne qui étudie la Torah de temps en temps, mais qui aimerait en faire plus. Rabotai, s'il vous plaît. Bon, laissez l'Angleterre sombrer dans ce qu'elle, voilà. Maintenant, nous, on est en France.
Il vient de nous apprendre, David, que la reine d'Angleterre, elle a dit qu'elle était juive.
Non, qu'elle descendait du roi, David. C'est ce qu'elle dit, hein.
Ah. Elle a dit ça ?
Ils ont dit ça sur Radio G.
Oui, ils ont dit Radio J.
Ouais,
Il y a d'autres sources à part ça.
Ouais, mais enfin, qu'est-ce que ça va nous apporter hein.
Non, j'ai rien quoi Radio J, mais.
C'est.
Ah, des fois, il y a des auditeurs qui parlent, ils racontent des bêtises.
Bah oui.
Alors, Rabotai, on va reprendre le scénario type. On a ici un scénario.
Ça passe pas, la judaïté passe par la mer. Donc, si ça existait par la mer. Donc ça marche pas. Elle descend droit à David, elle n'est pas juive pour autant.
Rabotai, s'il vous plaît, on reprend. On va reprendre notre scénario type. Notre scénario type du juif Merkava, du tank Merkava. Voilà, le juif Merkava. Le juif Merkava, bon, il est peut-être pas comme le patriarche, mais voilà. Il essaie d'étudier la Torah de temps en temps, même quand c'est difficile. Il a un cours de Torah fixe, donc il se soumet pour le faire. Il donne la tzedaka. Il se soumet pour le faire. Il le fait parce qu'il faut le faire. D'accord ? Maintenant, combien il donne la tzedaka ? Est-ce qu'il y a une limite ? Combien on peut donner la tzedaka ? On va en parler. Av, chez Nonoten et la Chomesh, je suis en haut de la page 105, bien qu'il donne seulement un cinquième. Pourquoi ? Parce que les Chachamim ont dit comme ça. C'est une halakha dans Shulchan Aruch, qui est écrite dans la Gemara, qu'il y a eu les sages de Usha. J'en ai parlé vendredi. Les sages de Usha se sont rassemblés. C'était une ville avec des grands maîtres talmudiques. Et ils ont instauré beaucoup de choses. Des problèmes du moment. Un des problèmes qu'il y avait à cette époque, et bon, avec ce nos problèmes, c'est que les gens donnaient trop de tzedaka.
Donnaient quoi ?
Trop de tzedaka. Ah, et que du coup, ça les appauvrissait.
Ça les
rendait pauvres.
Oui.
Alors, les sages de Usha ont instauré la chose suivante. Ils ont instauré que la tzedaka, c'est 10%. D'accord ? Et que celui qui gaspille, c'est le terme qu'ils ont employé, qui ne gaspille pas plus de 20%. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 20%. Ça veut dire qu'ils ont limité la tzedaka.
Donc ça veut dire au-dessus de 10, c'est du gaspillage.
Assez... Non, j'y arrive.
C'est assez intéressant.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tellement ils donnaient la tzedaka que il fallait le limiter à 20. Il fallait le limiter à 20%. Parce que plus que 20%, donc plus qu'un cinquième, ils avaient envie de donner.
Mais on a pas appauvri.
Tu sais, au niveau des impôts, au niveau des impôts, on ne peut pas défalquer plus de 20% du revenu. Quand on donne à des
Bon
ouais, y a une limite.
Ah oui, d'accord, parce que les impôts, c'est plus de 20%. Hein.
Non, je ne parle pas.
J'ai compris.
Tu peux déduire pour les œuvres.
Ça ne peut pas être plus que 20%. D'accord. Le chiffre 20, on peut en venir. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que concrètement, a priori, selon la halakha, c'est écrit en Shulchan Aruch, dans Yoredea, c'est écrit clairement, qu'on ne peut pas dépasser 20%. On ne peut pas dépasser un chomesh. Chomesh, ça veut dire un cinquième. D'accord ? On ne peut pas dépasser 20%. Alors, même quand je dis le maaser, puisque je parle déjà du maaser, le rabbi avait l'habitude de dire qu'il ne faut jamais donner la somme exacte dans le maaser. Il faut toujours dépasser un petit peu. Parce que dans la Gemara, il y a des mots très durs sur celui qui joue le compte d'apothicaire avec Akadosh Baruch Hu. On arrondit toujours un petit peu. Si on peut donner 15%, c'est même encore mieux. D'accord ? Mais en tout cas, on ne donne jamais 10% pile. Il faut toujours arrondir un petit peu. Mais on a vu ici que celui qui veut bien donner, il donne maximum 20%. Et celui qui veut donner plus, imaginez qu'il est milliardaire, il veut donner plus. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit ? Je parle 20% du patrimoine, pas 20% du chiffre d'affaires. Alors, concrètement, il est écrit que aujourd'hui, les chassidim, et pas que les chassidim, les tzadikim et tout le monde, ont pris l'habitude, les harbot me'od bitzdaka, de donner beaucoup de tzedaka sans forcément compter, donner sans compter. Alors, sur ça, il y a une question qui se pose. A priori, à l'arrière, il y a un problème.
Oui.
On t'a interdit de dépenser plus de 20%. Et si on dépasse les 20%, c'est pas très compliqué de dépasser les 20%. Celui qui dépasse les 20%, comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs réponses. Une des réponses qu'on a de Morazaken, dans le Tanya, dans les Guérites de Tchouva, c'est que il y a un principe qui dit que pour les frais de docteur, on peut dépenser ce qu'il y a besoin. Si par exemple quelqu'un, Dieu préserve, a son fils qui est malade, il va pas limiter le budget docteur à 20% de son patrimoine.
Non.
Il va dépenser ce qu'il faut pour guérir. Et même si on lui dit qu'il y a un médecin qui habite à Honolulu, il ira parce que ce médecin peut-être guérir. Aujourd'hui, le Harizal dit que comme on n'a pas la force comme avant de jeûner, comme à l'époque il jeûnait pour chaque petite avéra, il jeûnait 50, 100 jeûnes, ça partait par dizaines et par centaines. Aujourd'hui, on remplace les jeunes par la tzedaka. Donc, quand on donne la tzedaka, c'est comme si on payait pour la médecine, pour le docteur. Sauf qu'au lieu de payer pour la santé du corps, on paye pour la santé de l'âme. Donc, déjà, on a ici une raison halakhique. À part ça, il y a un pshat du Baal Shem Tov extraordinaire. Baal Shem Tov, il dit, il faut bien regarder les mots de la Gemara. Et les mots, donc, du Shulchan Aruch. La Gemara, elle dit, Ame vasbez, ali vasbez, yotam mechomesh. Celui qui gaspille, mais vasbez, qui ne gaspille pas plus qu'un cinquième. Quand on rentre dans l'étymologie du mot mevasbez, mevasbez c'est le mot biza. Ah, ibiza, biza. Alors, biza en hébreu, ça veut dire le butin. Ah, mevasbez, celui qui pour lui donner la tzedaka, c'est comme un butin, ça veut dire c'est une guerre. Et lui, on lui dit, bon, toi, tu n'as pas plus que
20%. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que celui qui est là, que pour lui, donne la tzedaka, c'est un butin, ça veut dire c'est très très dur, c'est une guerre. Lui, on lui dit, bon, tu n'as pas plus que 20%. Mais celui qui n'est pas comme ça, qu'au contraire, il est content de donner à Shrenu à Tafrel Kenu, à Samchat du Baal Shem Tov. Hein. Alors à ce moment-là, celui-là, au contraire, on peut donner. Et au contraire, on a eu, Akadosh Baruch Hu nous garantit, comme c'est écrit dans Malachi, que la une, je crois même que c'est la seule chose. On est à deux, oui, c'est la seule chose sur laquelle Akadosh aurait dit qu'on peut le tester. On n'a pas le droit de tester Akadosh Baruch Hu. C'est assourd. On n'a pas le droit de tester Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de dire je fais cette mitzvah et tant qu'on trouve pas, tu me donnes ça. Je dis ah voilà, tu m'as promis, c'est pas venu. On n'a pas le droit de tester. Dieu, bon, Dieu nous a promis, il donne, donne pas, on n'a pas compris. La seule chose sur laquelle Akadosh Baruch Hu dit Ufranuni na bezod, vous pouvez me tester. Vous pouvez me tester, c'est le maaser. Ah, c'est d'accord. Akadosh Baruch Hu dit celui qui donne le maaser, il s'enrichit. Comme il est écrit, aser te aser, ça veut dire aser. Si au lieu de mettre le signe, je mets un chine, ça me donne asher. Ça veut dire aser. Prends aser, c'est un mot asara, ça veut dire 10%. Prélève, tombe à aser. Kedé, je dis asher. J'ai modifié le signe avec le chine pour afin que tu deviennes achir. C'est quoi achir en hébreu?
Riche.
Riche. Prélève pour t'enrichir. L'autre dit
s'enrichir.
Non, c'est plus que ça. L'autre dit travailler plus pour gagner plus. Nous on dit donner plus pour gagner plus. C'est magnifique.
Mais il parle d'ici ou il parle de la
ici. Ici. Oui, d'accord. Il dit
le maaser que nous on fait maintenant sur notre revenu,
c'est un zecher. Oui.
C'est pas un maaser, c'est un
c'est vrai, mais c'est marloquet, c'est un zecher, c'est pas simple.
Parce que le maaser, c'est ce qui était donné
en fait, est-ce que Minadine on se doit de calculer?
C'est sûr qu'il faut donner la somme que la Torah te demande.
Mais non, mais est-ce que je dois calculer donner... Je sais que j'ai gagné. Est-ce que tous les mois, c'est comment ça marche? Tous les mois.
Moi, je te dis ce que je fais. Chaque mois, je donne. Et une fois par an.
Pile le montant.
Non, je donne. Bon, on arrondit, voilà. Ouais. Et une fois par an, je repluche tous les comptes. D'accord? Et je vois. Parce que des fois, t'as un truc qui est rentré, t'as pas fait attention, etc. Il y a des règles. Par exemple, dans ce que tu reçois, dans ce qu'on reçoit de la CAF, par exemple. Il y a des règles. Sur quoi on a prélevé le maaser? Sur quoi on n'a pas prélevé le maaser? S'il y a une aide qu'on te donne pour l'appartement, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de prélever le maaser pour ça, parce qu'il t'aide à payer ton loyer. Mmh. Mais par contre, quand tu as donc ça ne peut pas un revenu. Ça veut dire que tu avais un loyer de temps, on t'a aidé de 100 euros, de bon, d'accord, on t'a aidé. Mais
c'est blanc, bonnet blanc.
Non.
Tu tires d'un lot, tu reviens.
Non, mais c'est pas ça. Il faut voir la définition de ce qu'on t'a donné. Est-ce qu'on t'a aidé à payer ton loyer, ou est-ce que c'est une subvention qu'on a donnée? Par exemple, le Rav, il m'a dit, là, je lui ai posé la question, il m'a dit, pour les allocations familiales, il faut prélever le maaser. Parce que les allocations familiales, c'est pas quelque chose qu'on t'a déduit de quelque chose.
Non, c'est un revenu en plus. Super.
C'est un revenu. Ouais. Ça, il faut prélever le maaser. Par contre, si t'as une aide pour le loyer, dans ce cas-là, l'aide du loyer, là, tu prélèves pas le maaser. C'est comme ça. C'est un principe.
Donc, c'est bien les revenus, moins les charges.
Je disais, juste avant sur le maaser. Je disais que sur maaser, je peux taper maaser pour dire effectivement cette chose. Je regardais dans le commentaire, certains disaient que ça était sur le chiffre de Sheila. Et qui disait que certains en Israël considéraient que comme il y a une partie des impôts qui remontent déjà, qui
sont prélevés à la
qui sont prélevés et que ça aide au truc au pays au machin, c'est considéré.
Oh, c'est pas dingue là, ça.
Mais ici aussi c'est pareil. Hein.
Bon,
sur tes impôts, tu payes l'éducation, tu payes les pauvres, tu payes tous les Pakistanais qui viennent, on lui donne l'AME et tous ces affaires-là.
C'est une grande question ça. Est-ce que c'est un cadeau de l'État? C'est sans fin, ça, c'est compliqué.
Ah oui, parce que tu as un retour.
T'as un retour d'impôt.
Bien sûr.
Tu comptes quoi?
La question, non mais attends, c'est pas un retour d'impôt. C'est pas un retour d'impôt. La question est comment définir ça? Est-ce qu'on va définir que c'est un retour d'impôt? Ou est-ce qu'on va définir que l'État, il te dit, puisque tu as donné, alors nous on t'exempte de ça? Est-ce que c'est une exemption ou est-ce que c'est un retour? Il faut voir.
Oui.
Ils appellent ça, exactement, pour être précis, parce que bon, c'est la période des impôts maintenant, ils appellent ça une exonération. Le terme exonération, M. Baruch, notre linguiste nous confirmera, c'est pas un revenu, une exonération. Une exonération, ça veut dire qu'on... Voilà, ça veut dire que l'État va t'aider. Il te dit, comme tu as donné, donc tu donneras ça de moi. C'est pas simple. Mais d'un autre côté, si je l'avais pas donné à la synagogue, j'aurais dû le donner à l'État. Donc, c'est pas simple.
Attends. Avant de faire le compte, puisqu'on est dans les impôts, on les déduit du compte du maaser, les impôts, quand on paye?
Le maaser, ce sont les revenus.
C'est
le
revenu. Maaser, ce sont les revenus nets.
Oui, mais revenus,
c'est le revenu.
Hein?
Après les impôts.
Après
prélèvement des impôts.
Ce que j'ai dans ma poche, ce que j'ai gardé.
Tu as fait ton calcul, tu as un maaser de 5 000 euros. Mais sur ces 5 000 euros, l'année d'après, tu vas récupérer une partie en exonération d'impôts.
Oui.
Pourquoi je vais récupérer une partie?
Parce que c'est un don.
Non, tu vas moins payer d'impôts.
Non, ça dépend des cas. Il y a des cas où tu récupères sur place, il y a des cas où tu as un crédit d'impôt sur les années suivantes. C'est sans fin, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Bon, Rabotai, on va s'arrêter là. Je compte définir le Pérec, mais c'est pas grave, on finira la semaine prochaine. Donc en tout cas, on a appris aujourd'hui comment être Merkava à Kadosh Baruch Hu, être soumis à Kadosh Baruch Hu, dans notre étude, dans comment quand on étudie la Torah, on apprend à se soumettre à Kadosh Baruch Hu, comment quand on voulait donner plus, c'est comme si quelque part qu'on avait donné plus, et Dieu fera qu'on arrivera à donner plus. Quand on voulait étudier plus, Dieu fera que, d'abord Dieu fait que c'est comme si qu'on avait étudié plus, et Dieu fera qu'on arrivera à étudier autant. Et enfin, la façon juive de donner la tzedaka, on le fait comme à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, on essaye de le faire. On donne le bien parce que c'est du bien. Voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. On y arrive, vous voyez, c'est déjà plus accessible là.
Voilà, combien on va gagner au loto, combien de yachts on va acheter?
David, on a déjà gagné au loto, ça t'as pas compris. Ashreinu vatafrelkenu. On a déjà gagné au loto.
Non, mais nous on veut le jackpot, on veut Machia. On veut pas les kilos, nous. On veut pas 2-3 numéros, 4 numéros. Il veut le 6.